Europe 1, il est 6h.
Le numéro de téléphone d'Emmanuel Macron a été entré par le Maroc dans ce système-là qui vise ensuite à espionner les personnes. Donc seul l'Elysée maintenant peut nous dire ce qui s'est réellement passé.
Le monde politique français secoué. Emmanuel Macron et 14 de ses ministres espionnés par le Maroc en 2019 via le logiciel israélien Pegasus. On va voir dans ce journal comment fonctionne ce logiciel et pourquoi les données ne sont pas mieux protégées au plus haut sommet de l'État. L'autre grand titre à la une ce matin, c'est l'entrée en vigueur du pass sanitaire à l'heure où l'épidémie repart fortement à la hausse. On verra que les Français se jettent encore sur la vaccination. Et puis c'est l'un des films les plus attendus de l'été. Kaamelott arrive au cinéma aujourd'hui. Et déjà hier, c'était la foule pour les avant-premières. Juste après ce journal, le regard international de Jean-Sébastien Soldaini qui revient sur le scandale Pegasus ou la revanche des petits pays qui ont pu espionner les gros. Et puis notre rendez-vous d'histoire avec David Cassello-Lopez qui nous replonge aux origines d'un objet du quotidien. Ce matin, un plat qui fait débat, la pizza à l'ananas. Tout un programme. Très bon réveil. Vous êtes sur Europe 1, hein, il est 6h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Votre premier journal du matin, c'est avec Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Et à la une donc, Emmanuel Macron et des membres du gouvernement auraient été victimes de tentatives d'écoute via le logiciel Pegasus.
Oui, on va essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de ce qui pourrait s'apparenter à un scandale d'État. Mais d'abord, ce que l'on sait de l'affaire à ce stade, cette enquête menée par un consortium de journalistes avec ce fameux logiciel Pegasus, dont on savait déjà qu'il avait écouté des journalistes, des chefs d'entreprise ou encore des militants des droits humains. Mais voilà que viennent aujourd'hui les écoutes sur les hommes et les femmes politiques et notamment le président français Emmanuel Macron. Laurent Richard, journaliste d'Investigation, réagit aux preuves qu'il a trouvées.
Seule une analyse technique, au final, pourra le prouver. On a mené ce type d'analyse sur un grand nombre de téléphones. À chaque fois qu'on a pu le faire, les résultats étaient quand même très concluants. On a trouvé des traces d'infection et des traces de présence du logiciel Pegasus dans les téléphones qu'on a pu expertiser. Évidemment, on n'a pas pu faire la même analyse technique sur le téléphone d'Emmanuel Macron. Bien c'est sûr. À l'Élysée de le faire. Ce que ça veut dire juste, c'est que le numéro de téléphone d'Emmanuel Macron a été entré par le Maroc dans ce système-là qui vise ensuite à espionner les personnes. Donc seul l'Élysée maintenant peut nous dire ce qui s'est réellement passé.
On sait donc plus ou moins, Lénaïque, qui a été espionné. Autre question en revanche, comment marche le système Pegasus et quelles données ont pu être récoltées?
Alors on sait que c'est une technologie très poussée qui permet d'entrer dans le téléphone de tout un chacun. Didier François, on essaie de comprendre avec vous comment marche ce logiciel espion.
Alors, c'est un logiciel tout ce qu'il y a de plus retors, parce qu'en fait, il est activé à distance sans que vous puissiez détecter quoi que ce soit. En fait, c'est un logiciel qui a été conçu pour utiliser les failles de ce qu'on appelle les systèmes de votre téléphone, donc de votre smartphone, et qui va déclencher à distance, à 3, 4, 5 000, 8 000 kilomètres de là, toutes les fonctions de votre smartphone. Alors, le micro, ce qui lui permet d'écouter la conversation que vous pouvez avoir dans une pièce avec des proches. Ça peut activer l'appareil photo et donc la vidéo, donc avoir de la visibilité. Ça permet de lire en clair l'ensemble des messages envoyés SMS, mais également les messageries cryptées de type WhatsApp, Signal, etc. Puisque en fait, c'est au départ de votre téléphone et à l'arrivée de votre téléphone. Donc ça lit comme si vous étiez vous-même en train d'utiliser le téléphone. Ça permet également d'avoir accès à l'ensemble de votre agenda, donc de connaître l'ensemble de vos contacts. C'est un logiciel extrêmement puissant.
Et alors Didier, quelles données ont été récoltées?
Alors ce sont toutes les données des téléphones personnels, puisqu'évidemment le gouvernement, lui, a par ailleurs, pour les communications cryptés sur des questions sensibles, classifiées. Ils ont des téléphones particuliers qui s'appellent des théorèmes et qui, eux, sont durcis et ne sont pas attaquables par ce logiciel. En revanche, si des gens du gouvernement utilisent leur téléphone privé, ben oui, ils sont soumis à cette capacité d'espionnage de la part du logiciel Pegasus de NSO.
Merci Didier François pour vos précisions ce matin pour Europe 1.
Des révélations qui bouleversent depuis hier le milieu politique.
Oui, l'Élysée assure que si les faits sont avérés, ils sont graves et promet que toute la lumière sera faite. Mais cette affaire pose tout de même la question de la faiblesse des dispositifs de protection. Écoutez le député LR, Éric Ciotti.
Si cela est confirmé, cela pose naturellement un problème de sécurité nationale majeur. Que le président de la République, que les principaux ministres puissent être surveillés sans que l'on s'en aperçoive, c'est assez inquiétant et ça nous invite aussi à revisiter, à rehausser nos dispositifs de protection. Donc ça veut dire aujourd'hui que nos dispositifs de protection, de sécurité des plus hauts responsables de l'État sont défaillants, et cela est particulièrement préoccupant, et cela doit aussi amener à mieux nous protéger.
Éric Ciotti, député LR, interrogé par Claudia Bertram.
Mieux nous protéger contre tous ces pays qui sont capables aujourd'hui de payer pour se doter de ce genre de logiciel. On y revient juste après ce journal avec l'éclairage international de Jean-Sébastien Soldaini. L'autre grand titre à la une de l'actualité ce matin à 6h06, c'est le nombre de contaminations au Covid qui ne cesse d'augmenter en France.
Le pays est actuellement traversé par cette quatrième vague. 18 000 nouveaux cas détectés sur 24 heures, une hausse de 150% en une semaine. Jamais vu, provoqué par le variant Delta. On le savait plus contagieux. Voici qu'Olivier Véran le déclare également plus dangereux. Le ministre de la Santé qui s'est exprimé devant l'Assemblée hier.
Le virus circule beaucoup. Il circule beaucoup plus vite. Nous le savions, nous le constatons. Il circule essentiellement chez les jeunes. Il circule sur tout le territoire national. Je viens d'avoir les chiffres de contamination des dernières 24 heures dans notre pays. Nous étions hier à 18 000 contaminations sur 24 heures seulement. Cela veut dire que nous avons une augmentation de la circulation du virus de l'ordre de 150% sur une semaine. Nous n'avons jamais connu cela, ni avec le Covid, ni avec le variant anglais, ni avec le sud-africain, ni avec le brésilien.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran.
Alors on le sait, l'exécutif pousse à la vaccination. 40 millions de personnes devraient avoir reçu une première dose à la fin du mois de juillet.
Oui, un mois d'avance sur le calendrier initialement prévu. Les Français sont donc plutôt réceptifs. D'ailleurs, d'après une enquête Ipsos, 63% d'entre eux assurent qu'ils seront vaccinés au moment de partir en vacances. D'autres passent le pas sur leur lieu de villégiature, direction les Pyrénées-Orientales, le département de France le plus touché actuellement, avec ce reportage signé Henri de la Guérie.
Devant le gymnase de Saint-Cyprien, plusieurs dizaines de personnes font la queue pour se faire vacciner. Tongs, lunettes de soleil et maillots de bain, beaucoup sont en vacances. Anne-Lise, originaire de Marseille, séjourne en famille dans un camping du littoral. Elle s'est échappée de la plage pour accompagner sa fille de 15 ans.
Le fait qu'il y ait de plus en plus de cas ici, on s'est dit si on peut accélérer un peu les choses. On avait prévu de la faire vacciner fin août pour la rentrée. Et au final, on s'est dit c'est pas plus mal si on arrive à le faire vacciner là en début de vacances.
À Perpignan aussi, c'est la ruée. La mise en place du pass sanitaire a accéléré la vaccination, l'envolée des contaminations aussi. Brigitte Vadi, infirmière, coordonne le vaccinodrome.
Dans la région, les gens voient que ça flambe. On a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont porteurs du virus, donc les gens viennent. Beaucoup de gens qui, encore il y a un mois, juraient qu'ils ne se feraient pas vacciner et qui viennent aujourd'hui.
Et il faut parfois faire preuve de pédagogie. Beaucoup viennent à reculons. D'autres, en revanche, sont prêtes à tout pour se faire vacciner. Laetitia vit à Barcelone. Elle avait du mal à trouver un créneau en Espagne. Elle a donc fait le déplacement dans la journée.
Ouais, 4 heures de route dans la journée avec un bébé de 5 mois. On veut vraiment être vacciné le plus vite possible.
Et pour toucher le plus de monde possible, des centres de vaccination s'installent au plus près des vacanciers. À Collioure, à côté de la place du marché, tout le monde pourra se faire vacciner aujourd'hui. Perpignan, Henri de la Guérie. Europe.
Et puis c'est aujourd'hui qu'il fait son entrée dans notre vie, le pass sanitaire pour aller au cinéma, au théâtre, au musée, mais plus de masques obligatoires à l'intérieur dans ces cas-là. Les députés qui par ailleurs ont voté hier en faveur d'un report fin septembre pour le pass des 12-17 ans.
Europe 1, il est 6h08, un peu plus de 2 ans après la mort de Steve Maya Canisso le soir de la fête de la musique à Nantes. Le commissaire en charge du dispositif a été mis en examen pour homicide involontaire.
Mais souvenez-vous, le jeune homme s'était noyé après avoir chuté dans la Loire. C'était une charge controversée de la police. Marion Dubreuil, c'est la toute première mise en examen dans ce dossier.
Exactement, c'est ce commissaire qui était aux commandes de l'opération d'évacuation du quai Wilson où se trouvait Steve Maya Canisso. Or, l'expertise du téléphone du jeune homme prouve qu'il est tombé dans la Loire dans le temps de l'intervention des policiers. L'avocate de la famille, Cécile de Oliveira, parle d'un grand soulagement.
Pour la famille, c'est aussi le sentiment que la justice a cette indépendance pour pouvoir instruire sur un dossier de cette nature. C'est évidemment une forme de petite réparation d'un sentiment d'injustice très fort. En juillet 2019, quand on retrouve le corps de Steve Maya Canisso dans la Loire, c'est le Premier ministre, Édouard Philippe, qui fait des déclarations pour expliquer qu'il n'y a pas de lien entre l'intervention policière et la mort de Steve Maya Canisso. Pour la famille de Steve Maya Canisso, l'essentiel est que la responsabilité de la police soit retenue.
Un autre commissaire, le directeur adjoint de la sécurité publique de Loire-Atlantique, a été placé sous le statut de témoin assisté. Et le juge d'instruction rennais a également convoqué la maire de Nantes, son adjoint à la sécurité, l'ancien préfet et son directeur de cabinet. Les auditions devraient se poursuivre jusqu'à la rentrée.
Les précisions de Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1.
Lui a réalisé son rêve d'enfant. Jeff Bezos a pu approcher les étoiles.
Et un vol d'une dizaine de minutes, dont 3 en apesanteur, pas fondamental pour la recherche, mais mais en revanche prometteur pour l'industrie du tourisme spatial. Un petit moment après son atterrissage, Jeff Bezos s'est exprimé. Il a montré sa détermination à continuer.
Oh mon Dieu, nos attentes étaient énormes et c'était fantastique. Dans l'espace, en apesanteur, on se sent très normal, serein en train de flotter. Mais le moment le plus fort pour moi a été de regarder la Terre, son atmosphère. Et tous les astronautes qui ont été dans l'espace le disent. On comprend là-haut à quel point la Terre est fragile et qu'il faut la protéger.
Jeff Bezos parti de rien avant de devenir milliardaire grâce au succès d'Amazon. D'ailleurs, il a eu un mot pour les employés de la multinationale, mais aussi pour tous ceux qui un jour, il y en a beaucoup, ont cliqué sur le site de vente en ligne.
Je veux remercier chaque employé d'Amazon et chaque client d'Amazon parce que c'est vous qui avez payé pour tout ça. Donc, sérieusement, à tous les clients d'Amazon, à tous les employés, merci du plus profond de mon cœur. J'apprécie.
Voilà,
on
contribuer.
Sait, on sous, hein,
si ça peut, voilà, si on peut avoir une petite ristourne pour les prochains billets, on est preneur. On revient sur Terre à 6h11, Lénaïk Mouni, avec la sortie très attendue du film Kaamelott aujourd'hui.
Oui, passe sanitaire ou pas, il risque d'y avoir du monde à se ruer dans les salles tout à l'heure. D'ailleurs, le film a déjà battu un record avec 200 000 vénards qui ont assisté hier aux séances en avant-première. Reportage de Caroline Baudry.
Encore un instant avant d'entrer dans la salle obscure, mais Flo, ticket acheté en avance dans la main, n'est plus à quelques minutes près. Il attend la suite de Kaamelott depuis 2009.
Je suis fan de la série qui s'est déjà arrêtée il y a 10 ans. J'attends de savoir la suite de l'histoire. C'est long, on trouve d'autres occupations entre temps. Hein.
Oui, puisqu'il me parle qu'on réplique de Kaamelott à la maison.
Dans la salle bondée, noir, générique et retour de l'univers Kaamelott.
Ouais. Arthur.
Ses costumes d'époque, son humour absurde et ses acteurs, des historiques de la série. Et puis Alain Chabat, Christian Clavier, Audrey Fleurot. Et deux heures plus tard à la sortie, autant d'avis que de spectateurs.
Les images sont très belles, c'est vraiment une comédie d'aventure.
Un peu déçu, forcément j'en entendais beaucoup. Et les vannes, un peu, c'est un peu du réchauffé quoi, malheureusement.
On peut tout à fait voir le film sans avoir vu la série.
C'est un nouveau format et c'est à la fois enthousiasmant et dépaysant. J'ai moins ri que ce à quoi je m'attendais. Mais j'ai été plus attendri que ce à quoi je m'attendais aussi. Par le fait de retrouver ces personnages et la musique, le seul reproche que je pourrais faire au film, c'est que j'ai envie d'en voir plus.
Tous confient avoir déjà en tête la sortie du deuxième volet de cette trilogie annoncée.
Voilà, les fans qui vont se ruer sur le film aujourd'hui, il vaudra peut-être mieux réserver votre place. Sans transition aucune, Théo, est-ce que vous vous souvenez de Juan Juan ?
Bien sûr, la femelle panda du zoo de Beauval.
Voilà, elle avait mis au monde le tout premier bébé de l'espèce en France. Eh bien, elle remet ça. Un deuxième bébé panda est en route. Au zoo, on l'attend déjà avec impatience. Écoutez plutôt Delphine Delors, c'est la directrice générale du zoo. Elle espère même une surprise au moment de l'accouchement.
Énorme nouvelle, quand notre vétérinaire a passé cette échographe sur le ventre de Juan Juan, notre femelle panda, et que enfin on a pu apercevoir ce tout petit bébé à l'échographie. Oh, un moment de merveille. Juan Juan, elle était un peu nerveuse, un peu agressive, elle n'avait pas très envie, donc on n'a pu regarder qu'une seule partie de l'utérus, une seule corne, et il nous reste une corne à explorer. Et dans 50% des cas, les grossesses de pandas sont gémellaires, il y a donc des jumeaux, et Juan Juan est elle-même une jumelle. Donc peut-être qu'on verra un autre bébé vendredi à l'échographie. Ce serait exceptionnel. Là, à Beauval, on se réjouit tous de la venue de ce bébé panda qui va arriver très, 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 très vite puisque la naissance est prévue plutôt en fin de semaine prochaine, vers le 30, 31 juillet, 1er août, 2 août. La grossesse des pandas est extrêmement rapide.
Oui, ça arrive vite.
Vous savez combien de temps ? 4 mois, la gestation de la femelle
D'accord,
panda.
D'accord, je sais que la femelle panda, c'est aussi un des seuls mammifères qui peut suspendre sa grossesse et la poursuivre plus tard. Voilà,
ah oui,
ce que nous avez appris lors d'une pressante interview, les biologistes du zoo de Beauval. Merci beaucoup, Lénaïk Monnier. Il est 6h14.